Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 7 juillet 93 à Saint-Jodard.
Je termine ce matin cette petite topique historique. J'ai pris quelques grands tournants à l'égard de ce problème qui est au cœur de toute la philosophie européenne, et je le dirais au cœur de la philosophie tout court. C'est évident quand on regarde le parallélisme avec la philosophie de l'Inde. Je ne suis pas du tout spécialiste de la philosophie de l'Inde. Mais j'ai un ami, c'est toujours ce qu'il faut avoir au point de vue philosophique. On ne peut pas tout connaître, surtout si on veut approfondir. Il faut avoir des amis dans les différents secteurs. Olivier Lacombe est sûrement un des spécialistes de la philosophie de l'Inde, et très honnête. C'est très curieux et c'est très intéressant de faire le parallélisme. La philosophie d'Inde n'a pas connu l'influence de la révélation chrétienne. Alors, on retrouve dans la philosophie d'Inde les deux aspects Platon-Aristote. C'est intéressant parce que ça montre bien que c'est deux manières humaines de rechercher l'absolu. On retrouve les deux. Ou, la très grosse différence qu'il y a, c'est à partir de Descartes. À ce point de vue-là, on peut dire, et on l'a dit, même Hegel le dit, c'est avec Descartes que la philosophie européenne prend son tournant. Je dirais européenne pour quitter philosophie tout court. Le nombril européen est devenu plus important que la recherche de la vérité. Je crois. Et c'est pour ça qu'on se tourne sur la certitude et non plus la vérité. Et je crois que c'est très important. Et la conséquence, c'est qu'on recherche la sincérité plus que la vérité. Vous savez bien, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est la conséquence. La certitude vous conduit à la sincérité. Parce que l'avantage de la sincérité, c'est que vous êtes seul juge. Alors vous demeurez dans votre certitude. Les ponts, levis étant levés. On jette de la poix sur le voisin. On ne cherche plus que la sincérité, la certitude. On ne cherche plus la vérité. C'est pas commun de chercher la vérité. Parce qu'il faut tout le temps dépasser le conditionnement dans lequel on est. Vous voyez, faire de la philosophie dans un milieu monastique, c'est pas la même chose que de faire chercher la vérité dans un milieu universitaire. On oublie que l'université européenne était d'abord catholique, chrétienne. C'est vrai, elle est née du christianisme. Puis petit à petit, elle s'y est opposée, à partir de Descartes. Le milieu aide ou au contraire n'aide pas. Mais la vérité est au-dessus du milieu. Et la grâce ne détruit pas la nature. Et si on est chrétien, on doit être plus humain encore. Si on est vraiment chrétien. rechercher la vérité dans un milieu monastique doit aider. Mais de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose qui contamine. Et ça, c'est typiquement le climat de laïcité. Parce qu'on pourrait dire que la laïcité aussi est un milieu, un a priori. C'est-à-dire, Dieu n'existe pas. C'est un a priori, parce que Dieu existe. C'est-à-dire, vous dites ça au nom de quoi ? Je dis ça en tant qu'homme, ce que nous allons voir. Pas en tant que religieux, pas en tant que chrétien. Et c'est là qu'il y a un point très délicat et très important. De voir si le milieu dans lequel on pense détermine ou ne fait que conditionner. De le point de vue de la sociologie, de la psychologie et le point de vue de la philosophie. Si vous êtes uniquement psychologue, si vous êtes uniquement sociologue, vous direz que le milieu détermine. Si vous êtes philosophe, vous direz non. Le milieu ne détermine pas. C'est un tremplin. C'est un sycomore. On monte dessus pour mieux voir. Mais ça ne détermine pas. Je me souviens, c'était une discussion que j'avais avec mes psychanalystes freudiens. Alors eux, tout le temps, le milieu détermine. Je dis, non, le milieu ne détermine pas. Si on est un homme, on a sa propre finalité qu'on découvre progressivement. Le milieu joue, ça joue beaucoup le milieu, c'est bien évident, mais ça ne détermine pas. Alors on discutait fort là-dessus. J'étais seul du reste, puis tous les autres étaient cons. À ces moments-là, le ciel vient vous aider. Tout d'un coup, un petit écureuil apparaît. J'étais dans un très beau lieu, parce que quand on fait de la psychanalyse, il faut toujours être dans un très beau lieu. Pour aider. Un très beau lieu. Au Mont Pèlerin, en Suisse. Tout d'un coup, un petit écureuil apparaît. Là, silence. On se tait. Le petit écureuil vient, il saute de branche en branche, puis il vient, il regarde les psychanalystes. Et puis il me regarde aussi. Puis au bout d'un certain temps, il s'éloigne. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous avez vu ? Mais on a vu un écureuil. Ah tiens ! Et moi aussi, c'est curieux. Mais qu'est-ce que ça se fait, ça ? Pourtant, on n'était pas du tout dans les mêmes dispositions. Vous avez vu un écureuil ? Vous êtes sûr ? Moi aussi, j'ai vu un écureuil. Alors, à ce moment-là, heureusement, ils étaient de bonne humeur. On a tous éclaté de rire. On a dit, ah, comme les problèmes se compliquent quand on fait de la psychanalyse. Je vous dis, oui. Alors revenons au réel, l'écureuil existe, et c'est un petit animal merveilleux, il fait l'unité. Il fait l'unité. Et en dehors du contexte, on a reconnu qu'il y avait une détermination qui ne venait pas du milieu interne et externe. Puisque ce milieu existait avant que l'écureuil soit là. Et l'écureuil est venu plonger dans ce milieu, disant « C'est moi !» Il en a répondu « Oui, c'est vous !» Alors vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que font, on fait de la philosophie et on oublie l'expérience. Et tout est là. Est-ce que la philosophie, c'est pour l'homme Où est-ce que l'homme est pour la philosophie? Grave question. Les idéologies mesurent l'homme. Et la philosophie est mesurée par l'homme. Les idéologies veulent imprimer leur méthode. Et on ne peut plus penser qu'à travers ces méthodes. Et la philosophie est au service de l'homme parce qu'elle est sagesse. Alors, on n'oublie pas la réalité et l'expérience. Une vraie philosophie réalise par de l'expérience et lutte contre les idéologies. Les idéologies partent des idées, parce que ce sont des idéologies. C'est le logos des idées. C'est la réflexion sur nos idées. Tandis qu'au contraire, la philosophie part de l'expérience. Nous avons une expérience commune, vous voyez, quand on fait une session philosophique. Une expérience, on cherche la vérité. On la reçoit différemment, puisqu'on a tous une éducation différente. Mais on essaie de dépasser notre manière habituelle de connaître pour chercher la vérité. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est par là qu'on peut s'entendre. Si on reste uniquement dans notre vécu personnel, ben, on est très différent. Si au contraire, on essaie de dépasser ce vécu pour rechercher la vérité, le petit écureuil, on se dit, mais oui, l'écureuil est là. Et on l'appelle tous écureuil. On a tous l'expérience du petit écureuil. Alors, ça, c'est parce que c'est très important de se rappeler ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous essayons de chercher la vérité. Et la vérité la plus profonde de toute notre vie humaine. Existe-t-il un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu ou Allah? Alors, je vous disais hier, en terminant, un mot sur Hegel. C'est quand même très important, puisque Hegel joue un rôle capital. Je reviens encore un instant là-dessus. On comprend alors que si, du côté de Dieu, rien ne peut s'opposer à la connaissance de lui par les hommes, s'il appartient à sa nature même d'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de l'esprit pour Hegel. S'il appartient à sa nature même d'esprit de se révéler et de se révéler à l'esprit de l'homme, toutes les limites imposées par Kant à la raison soient complètement dépassées. C'est intéressant de voir ces deux opposés, tous les deux luthériens, du reste. Donc, au point de vue religieux, ils ont le même contexte. Et ils ont deux positions diamétralement opposées. Ce qui montre bien que la pensée est au-delà du milieu dans lequel on réfléchit. C'est une preuve, ça. Il ne s'agit plus pour la raison de s'efforcer d'atteindre un tout autre qui la transcende. Dieu, pour Hegel, n'est pas au-delà du savoir qu'en a l'homme. Dieu n'est Dieu, ça c'est de Hegel, Dieu n'est Dieu qu'en tant qu'il se connaît lui-même. Et sa connaissance de soi est en outre la connaissance de soi qu'il a en l'homme. Ce qui est sûr, Dieu se connaît, et Dieu se connaît en tant que nous le connaissons. C'est vrai. Nous disons la même chose au point de vue théologique. Et sa connaissance de soi est en outre la connaissance de soi qu'il a en l'homme. Et la connaissance que l'homme a de Dieu se continue dans la connaissance qu'il a de lui-même en Dieu. Ce que nous appelons preuve de Dieu, de l'existence de Dieu, n'est donc autre que la révélation de Dieu dans l'esprit de l'homme. Révélation qui est, si l'on peut dire, la réalisation même de Dieu. Dieu se réalise en l'homme, parce qu'il est parfaitement Dieu, quand il est dans la conscience de l'homme, et que l'homme a conscience de lui. Là, on n'est pas tout à fait d'accord, hein. Vous comprenez bien. Ce que nous appelons donc preuve n'est autre que la révélation de Dieu dans l'esprit de l'homme. Le plus explicite dans cette révélation est que ce n'est pas la soi-disant raison humaine et ses limites qui connaît Dieu, mais l'esprit de Dieu dans l'homme. C'est la conscience de soi de Dieu qui se sait dans le savoir de l'homme. Il y a donc là beaucoup plus ou toute autre chose qu'une preuve, la révélation du développement même de l'esprit qui n'est authentiquement absolu que parce qu'il est, que parce qu'il le devient, et qui ne se révèle à soi-même qu'en se révélant à l'homme. L'esprit n'est esprit que dans la mesure où il est pour l'esprit. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'affirmation de Hegel. Hein. L'esprit n'est esprit que dans la mesure où il est pour l'esprit. Donc, Dieu n'est esprit que dans la mesure où il est esprit pour mon esprit. Et c'est pour ça que je permets à Dieu, en le cherchant, d'être parfaitement lui-même. Vous voyez ? Alors là, c'est très très intéressant parce que ça rejoint en même temps quelque chose qu'Aristote disait. Toujours intéressant de voir le parallélisme Hegel-Aristote. Aristote disait dans son Éthique, quand l'homme cherche à découvrir si Dieu existe, ou quand il cherche à contempler Dieu, Dieu l'aime parce qu'il développe en lui ce qu'il y a de meilleur. Nous aimons notre ami dans la mesure où il développe en lui ce qu'il y a de meilleur. C'est sûr. C'est ça qu'on cherche. Quand on aime quelqu'un et qu'on voit qu'il ne développe pas en lui ce qu'il a de meilleur, on dit, mon pauvre type, tu perds du temps. C'est triste. Tu es capable de bien d'autres choses. Et on pleure, on est triste. Le pleur de Sainte Monique sur Saint Augustin. On voit très bien ça. Tandis qu'au contraire, si on développe en nous ce qu'il y a de meilleur, Dieu est joyeux de cela. Et Aristote disait, c'est à partir de là que se crée une sorte d'amitié avec Dieu. Hegel dit, c'est à partir de là qu'on permet à Dieu d'être parfaitement lui-même. Vous voyez, c'est très intéressant parce que les deux touchent un point capital, le point de rencontre de l'esprit avec Dieu. C'est quand même capital ça. Mais les deux manières tout à fait différentes de le voir. D'un côté, de voir que la recherche de la vérité poussée à l'extrême, c'est ce qui plaît le plus à Dieu. parce que c'est par là qu'on est le plus proche de lui. Aristote. Permettre à Dieu de pouvoir se communiquer à nous, et en se communiquant d'être parfaitement Dieu, permet à Dieu de se réaliser parfaitement. Si j'essaie de comprendre la différence entre ces deux positions, c'est que je vois que pour Aristote, si Dieu est Dieu, il ne peut pas être modifié par l'homme. Il est infini. Mais il est heureux que l'homme le recherche. C'est la plus grande joie qu'on peut donner à Dieu, de rechercher ce qu'est Dieu et de le contempler. Et ceci, c'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Si j'identifie intentionnalité et réalité, je dirais que ce n'est pas seulement de la joie que je donne à Dieu, mais je transforme Dieu. Alors je termine ce petit passage sur Hegel. Pour Hegel, je conclue, hein, je conclue. Ceci, c'est tout ce travail que je vous ai déjà dit. Enseignant la philosophie, la place de la philosophie sur Dieu, je me suis dit que le père Maréchal avait essayé de voir le point de départ de la philosophie et de la métaphysique. Mais ce qui était beaucoup plus important, c'était de saisir les sommets des pensées philosophiques. Le ski de printemps, pour avoir une image, les sommets. Oui, parce que la base, c'est toujours très difficile. Il y a très peu de philosophes qui avouent le point de départ de leur recherche. Mais le terme de leur recherche, ils sont obligés de le dire. Alors, chercher la diversité des philosophes par le terme de leur recherche me semble beaucoup plus intéressant que de chercher le point de départ. Mais comme vision historique de notre philosophie européenne, s'enracinant dans la Grèce. Reprendre, autrement dit, ce que Merleau-Ponty a fait de son côté, qui est intéressant, dans un livre, Encyclopédie. C'est l'encyclopédie des génies philosophiques, où elle essaie de ponctuer toute l'histoire de la philosophie européenne. C'est intéressant. C'est bien fait. Et l'avantage, c'est qu'il y a des photos. C'est reposant. J'aurais dû mettre ça, moi. Successivement, c'est audiovisuel, j'aurais dû faire ça. Hein. Ça aurait été plus astucieux. Pendant que je parlais sur Hegel, 3-4 tableaux d'Hegel. Vous auriez vu Hegel. J'aurais fait vivre un peu. Quand je parlais d'Aristote, quelques bustes d'Aristote et de Platon. Alors c'est ce que fait cette encyclopédie. Je ne l'ai pas sous la main, je voulais l'apporter. Je l'ai prêté à un père qui est en Afrique, parce qu'en Afrique c'est impossible de trouver ce livre-là, comme il enseignait la philosophie. J'ai dit, pour vos Africains, ce serait intéressant de regarder ça. Pour nous, Européens, c'est plus facile d'aller dans une bibliothèque et de chercher cette encyclopédie des génies. Par Merleau-Ponty. Alors, pour Hegel, il est bien évident que la vie de l'esprit ne peut se développer que dans une élévation vers l'absolu, vers la totalité, vers celui qu'on appelle Dieu. Et que celui qu'on appelle Dieu ne peut être posé dans son existence comme extérieur à notre univers, à notre esprit, à nos concepts. Puisque cet absolu est l'esprit. Or, l'esprit n'a pas de frontières et n'a pas d'extériorité. Aussi, le propre de l'esprit est-il de dépasser toute limite, toute extériorité, pour s'élever dans une intériorité toujours plus grande, s'identifiant avec l'Esprit Dieu. Ainsi se trouve dépassée l'absolue séparation de Dieu et de l'homme, et instaurée leur communauté mutuelle, qui est une communauté de l'Esprit avec l'Esprit, une connaissance en commun, et chacun n'est pour l'autre un être ou un autre, qu'en tant qu'il le connaît. De ce rapport d'esprit à esprit, on ne peut en définitive parler qu'en langage mystique. C'est l'expression de Hegel, hein, qu'on ne peut parler qu'en langage mystique. Mais mystique dans le sens de celui qui est esprit pur. Donc pour Hegel, toute sa dialectique, toute sa philosophie se termine dans une mystique, la rencontre de l'esprit avec l'esprit. Oui, c'est très fort et c'est très beau. Il y a des paroles merveilleuses de Hegel. Quand Hegel parle, vous voyez les dates d'Hegel, c'est pour ça, donc. Quand Hegel parle de ce qu'il voit en disant ce qui est terrible, c'est que les hommes d'aujourd'hui ne s'intéressent qu'à la science de notre monde. Ils ne s'intéressent plus à l'absolu. Et c'est sa grande désolation. Et il dit ça même des théologiens, c'est-à-dire des luthériens. Ils s'intéressent contemporains, alors que la seule chose intéressante, c'est l'éternel. Parce que le temporel, ça passe. Il y a, chez Hegel, il faut bien le voir, il y a un élan mystique extrêmement puissant, extrêmement fort. Alors, toute l'erreur, vous voyez, c'est identifier esprit de Dieu et esprit de l'homme. Supprimer cette expression qui est de lui, et qui est très intéressante, supprimer l'absolue séparation de Dieu et de l'homme. L'absolue séparation. Il faut supprimer cette absolue séparation, qui pour lui est un chosisme. Vous voyez, on fait une chose de Dieu. Or Dieu est esprit, il n'est pas chose. Tout ça, il y a du vrai, hein. On imagine Dieu. On ne peut pas imaginer Dieu. Dieu est au-delà de toute imagination, de toute réalité matérielle. Il est esprit. Plus présent à notre esprit que notre esprit n'est présent à lui-même. Nous disons ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas entre Dieu et nous le mystère de la création. Dieu n'est pas créé, nous sommes créés. Petite différence. Alors, maintenant je passe à ce dernier moment de cette topique, ce passage de Hegel de droite. Hegel, toute sa philosophie est pour l'esprit et pour Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait de la dialectique hegelienne? On a fait un Hegel de gauche. Feuerbach, Engels, Marx. On s'est servi de la dialectique hegelienne pour faire une idéologie athée. Et de fait, depuis 150 ans, s'est développée en Europe et en Amérique. Mais c'est sorti de l'Europe. je les reprendrai ce soir dans un regard théologique. Ici, je ne prends qu'un seul représentant de cette idéologie athée, le représentant le plus virulent et j'allais dire le plus sympathique. Parce qu'il a de très bonnes dents. C'est Nietzsche. C'est celui que la jeunesse aime le plus. Notre jeunesse d'aujourd'hui, elle est marquée par Nietzsche. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Vous voyez, tout ce que vous avez dit, le cardinal, si on remonte à la source, c'est Nietzsche. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier Nietzsche. J'ai connu à Fribourg un jurassien qui est venu à l'université, et vraiment il ne me l'a pas dit au début, qui était nietzschéen, purement nietzschéen, ayant fait ses études dans un très bon collège, Saint-Maurice. Et là, il y en est sorti nietzschéen. Puis il est venu à Fribourg. Je n'ai pas caché ce que je faisais en disant que j'étais pour une philosophie réaliste. Et je le voyais toujours dans le silence. Je dis, qu'est-ce qu'il couve? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il me saluait sans me parler. C'était son droit, hein. Je ne demandais pas de me parler. Je le saluais aussi. Et je voyais qu'il suivait avec beaucoup d'attention. Au moment de la licence, forcément, il est sorti de son silence. Il m'a dit, c'est avec vous que je désire faire ma licence. Je lui ai dit, sur quoi? Sur Nietzsche. Il m'a dit, très bien. Très bien. En bon suisse, il connaissait parfaitement l'allemand. Il lisait Nietzsche en allemand. Et il connaissait en jurassien parfaitement le français. Il m'a fait une licence sur Nietzsche. Étonnant. Sa licence était tellement bonne, je lui ai dit, il faut que vous fassiez votre doctorat. Elle m'a dit, j'y pense. Sur Nietzsche. Mais, à ma grande stupéfaction, préface, Nietzsche est le grand séducteur de la jeunesse actuelle. Et c'est vrai. J'ai été séduit. Et je dirai pourquoi j'ai été séduit. Mais j'en suis sorti de cette séduction. Il y a quelque chose de plus grand que Nietzsche n'a pas saisi. Et je désire écrire ces pages pour tous les jeunes séduits par Nietzsche, qu'ils le connaissent et qu'ils le voient. Alors à ce moment-là, on a pu parler. Alors il m'a raconté son histoire. C'était très beau. Alors Nietzsche, quelques mots, hein. 1844-1900. Notre siècle dépassant ce qu'il appelle l'athéisme dévot de Feuerbach, qui qui laisse encore subsister la nature divine de l'homme. Et reconnaissant en Schopenhauer le premier athée indépendant, honnête et absolu, qu'est produit l'Allemagne, Nietzsche pense devoir assumer une double mission. Il sera le prophète de la mort de Dieu et éveillant de leur somnolence les dormeurs inconscients. Il proclamera, en la menant à son terme, la décomposition totale du christianisme. C'est net, hein? C'est le point de départ de notre siècle. La décomposition totale du christianisme. Ce qu'on appelle la culture chrétienne. Cette mort de Dieu qui désignait chez Hegel l'aliénation suprême de l'idée divine. Nietzsche va la proclamer ouvertement comme le meurtre de Dieu par l'homme. Il va tirer toutes les conséquences de ce déicide. Voyez tout de suite cette taille extraordinaire de Nietzsche, la mort de Dieu. L'homme qui tue Dieu, qui tue son tyran, pour se libérer totalement. Mais si Hegel cache un mystique, Nietzsche cache quelqu'un, il ne faut pas l'oublier, quand il avait 18 ans, Nietzsche écrivait des psaumes d'une très grande beauté. Puis progressivement, l'art, à la manière de Nietzsche, vous savez comment il est mort fou. Et les derniers mots qu'il a écrits sur un parchemin, c'est art, art, art. C'est la créativité qui a été la séduction profonde de Nietzsche. Cette affirmation de Nietzsche qui est tellement forte. Si Dieu existe, il est créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Et se libérer de quelque chose qui est au-delà de son art. Je crois que c'est important, du reste, pour comprendre notre siècle. Oublie beaucoup trop ça, que au point de départ de notre siècle, il y a la mort de Nietzsche. Quel est ce Dieu dont l'homme s'est fait l'assassin? On a noté à juste titre que quand il présente l'idée de Dieu comme une projection des désirs de l'homme malheureux, un produit de sa nostalgie et de ses frustrations, Nietzsche n'est pas original. Quand il affirme que l'homme projette le sentiment de sa propre force sur un être qu'il puisse remercier de cela, et que par le fait même, il s'appauvrit de tout ce qu'il admire et adore en son Dieu, il tient un langage qui était déjà celui de Feuerbach. Mais, alors voilà l'originalité de Nietzsche. Donc, il y a Feuerbach. Feuerbach, tout le monde reconnaît que Feuerbach, sitôt, Hegel, est le grand tournant. Je ne l'ai pas. recueillir tout ce que Nietzsche dit contre Kant. Tous les deux bombardent Kant comme le pire des imbéciles. C'est très net dans leur position. Et pourtant, Hegel et Nietzsche se posent en diamétralement opposés. Toute la grandeur de Hegel, c'est que l'homme n'est grand que quand il est uni à Dieu. Quand il est un avec Dieu. Quand il est Dieu. Et pour Nietzsche, toute la grandeur de l'homme, c'est quand il a nié l'existence même de Dieu. Pas seulement l'assassin.
L'absolu, et dit que c'est Dieu. À partir de ce moment-là, l'homme devient...
C'est très intéressant parce que c'est ça qui monte l'esprit de Nietzsche. Oui. Il y a chez lui un amour d'exalter l'homme au-dessus de tout. Je crois que c'est ça. Il voudrait être le créateur de l'homme. Mais il aime l'homme. On a ainsi inventé une notion de Dieu, dit-il, qui est une antinomie de la vie. On a inventé une notion de l'au-delà, du monde vérité, pour déprécier le seul monde qu'il y ait, pour ne plus conserver à notre réalité terrestre aucun but, aucune raison, aucune tâche. Et l'exaltation. C'est le mépris souverain de notre univers sensible. Et donc, si je découvre l'esprit pur, je méprise la matière. Et il y a une pensée dialectique, l'opposition entre les deux. Voilà ce qu'il nous faut détruire. Ce Dieu esprit et dont il faut vaincre jusqu'à l'ombre, en définitive l'être, si l'on veut pouvoir vivre et s'élever encore. Parce que tant que je regarde le Dieu créateur, je dois adorer. Et adorer, c'est se mépriser. Adorer, c'est s'anéantir. C'est reconnaître qu'on n'est rien. Dépendant de notre être. En rejetant Dieu et son ombre, la source de l'être et l'être, l'homme se découvre dans son autonomie propre, sa propre vie, sa volonté de puissance. C'est la volonté de puissance. Sa vie, c'est sa volonté de puissance. La mort de Dieu est nécessaire pour que surgisse la vie. La vie dionysiaque et le vieux sophisme de la cause première, du Dieu cause de l'univers, disparaît pour l'avènement de l'activité créatrice de l'homme, assumant et transformant toute l'énergie de l'univers, l'humanisant. Et c'est son secret. Il ne peut pas supporter d'être second. C'est insupportable d'être second. Que je vous ouvre mon cœur. C'est comment parler Zarathustra, hein, qui a été composé à Sismaria. Pas l'oublier, dans un lieu de la haute Engadine admirable. J'ai fait le pèlerinage, pas à cause de Nietzsche, mais parce qu'on m'avait dit que c'était un des lieux les plus beaux. Alors on raconte là des petites histoires que Nietzsche se promenait. Pensant. Et les gosses le regardaient. Et alors le plus grand plaisir des gosses, ça fait partie des légendes, mais je crois que c'est authentique, c'est de mettre des petits cailloux dans sa poche, sans que Nietzsche s'en aperçoive, tellement il était épris, tellement pris par son sujet. Alors quand il revenait à l'hôtel, ses poches étaient pleines de petits cailloux. Vous voyez le petit poussé, hein, c'est très très joli. Ça montre cet homme pris pour sauver l'homme, être le sauveur de l'homme, le sauver de son naufrage. Que je vous ouvre mon cœur, vous, mes amis. S'il existait des dieux, comment pourrais-je supporter de ne pas être Dieu. Il n'y a donc pas de Dieu. Mais le raisonnement, il n'y a donc pas de Dieu. Voilà l'orgueil nouveau, hubris, que Nietzsche veut enseigner aux hommes et qui fait de la mort de Dieu la condition de l'avènement du surhomme. À moins que ce ne soit les souffrances causées par la nostalgie de Dieu qui finissent par engendrer le besoin de créer Dieu sous la forme d'une divinisation de soi-même. Alors voyez, l'alternative, ce qui reste de chrétien en lui, l'homme peut être divinisé. Et c'est pour ça que certains ont dit que Nietzsche, jusqu'au bout, a cherché cette divinisation de l'homme, comme Hegel. Il y a les deux aspects chez lui, la double alternative. Divinisation de soi, ou inquiétude grandissante d'une recherche de Dieu qui ne se comprend peut-être plus, sans aller jusqu'à dire que la mort de Dieu ne signifie aucunement une déclaration d'athéisme, mais au contraire la restauration de la question de Dieu dans son authenticité. Ça, c'est une thèse soutenue pour montrer que Nietzsche est un grand mystique. C'est vrai, c'est très très difficile, hein, de comprendre vraiment Nietzsche. C'est un poète, un grand poète, un poète métaphysicien. Alors, il y a les deux chez lui. Et je crois que c'est cette alternative qui n'a jamais complètement simplifié qui fait qu'il est mort fou. Il est porté en soi la soif de divinisation et porté en soi le désir de la mort de Dieu pour prendre la place de Dieu. C'est fou. Et de voir ces deux voies, ben c'est ce côté qui rend Nietzsche sympathique. Parce qu'on voit qu'il a été jusqu'au bout. Et en même temps, qui fait comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce qu'il cherche un Dieu immanent. Alors il n'y a pas d'issue dans l'immanent. admiration de soi ou inquiétude grandissante d'une recherche de Dieu qui ne se comprend peut-être plus. Donc alors, à partir de là, on voit très bien comment on interprétait Nietzsche, un grand mystique. Il faut reconnaître sans doute fondamentale de Nietzsche, aucune n'était plus profondément ancrée en lui que son instinct religieux. Ceux qui disent que Nietzsche est religieux étaient hantés par Dieu. Et surtout, ne faut-il pas reconnaître que toute son œuvre est comme un cri d'angoisse annonçant l'effondrement de la civilisation chrétienne et de l'Europe. Effondrement qui est la conséquence nécessaire de la mort de Dieu. L'homme déicide ne peut qu'être entraîné dans un abîme de solitude et de tournement et de division. Cette angoisse terrible chez Nietzsche. L'Europe est née chrétienne. On entre dans un monde athée. Et donc c'est l'effondrement de l'Europe. Et c'est le prophète de l'effondrement de l'Europe. Je crois que ça joue un rôle très très important chez Nietzsche. Si je nie Dieu, l'Europe ne peut plus exister. Parce que l'Europe est née chrétienne. Donc si je nie Dieu, si l'homme est le meurtrier de Dieu, l'Europe s'effondre. Et si l'Europe s'effondre, toute la culture chrétienne disparaît. Nous sommes à la fin du XXe siècle. C'est levé toutes ces formes, ces sept grandes formes d'idéologie athée. Le philosophe doit constater cela, autrement il n'est pas philosophe de son temps. Et il doit être philosophe de son temps pour être philosophe de l'éternité. Je n'ai pas le droit de dire « Oh, tout ça, ça va passer ». Vous voyez, c'est quand on dit le marxisme est terminé puisqu'il y a effondrement du communisme. C'est pas vrai. Le marxisme demeure au-delà du communisme. Lénine l'a dit. Puisqu'il doit se modifier selon les progrès de la science. Et nous sommes en face de ces idéologies athées qui ont tout rasé. On le dit aujourd'hui, allez du côté de l'Est. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le communisme a tué l'âme d'un pays. Et c'est ça qui est le plus difficile. L'âme d'un pays est tuée par le communisme. Alors comment relever ces pays? Et c'est les conséquences du communisme devant lesquelles on se trouve. Je crois que Nietzsche, à ce point de vue-là, est très étonnant. Parce qu'il a été jusqu'au bout de l'athéisme. Il a montré qu'on ne peut être athée que si on nie l'être. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut donc reprendre le problème de l'être à sa racine. Et c'est le rôle du philosophe. On ne peut plus se contenter de conclusions philosophiques. framboisé. On doit tout reprendre à la racine. Vous voyez, c'est ce que Heidegger a très bien senti. Après Nietzsche, c'est Heidegger qui parle de l'oubli de l'être. Il devrait parler de la néantisation de l'être. C'est pas seulement l'oubli. Nietzsche n'a pas oublié l'être, mais il l'a rejeté. Le plus grand ennemi, c'est la métaphysique. Et Heidegger essaie de repenser l'être. Et toute sa philosophie, c'est de repenser l'être. Mais Heidegger n'a pas été assez loin. Et c'est pour ça que ce qu'il dit ne peut pas relever, s'opposer à Nietzsche. Il y a là un problème extrêmement important devant lequel nous nous trouvons et qui nous permet de tout reprendre. Quel est le point de départ de la philosophie première ? Heidegger est d'accord qu'il faut reprendre la philosophie première. Heidegger s'oppose violemment à la scolastique décadente et proclame l'enterrement solennel de la scolastique décadente. Et il a raison sur ce point. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Et il en fait un enterrement de première classe. Et il essaie de repenser l'être. La scolastique décadente, pour lui, est une scolastique où on a tout commencé par l'idée d'être. Et pour Heidegger, il n'y a pas d'idée d'être. Là, je suis moins d'accord. Mais je suis d'accord que c'est faux de commencer par l'idée d'être. Suarez, qui est au point de départ de la scolastique décadente, Suarez, dans ses méditations métaphysiques, donc les méditations métaphysiques, dit que le point de départ de la métaphysique, c'est le concept d'être. C'est le concept d'être fini et infini. Commence la métaphysique par le fini et l'infini. Et c'est pour ça que, dans la conséquence de Suarez, on voit Wolf, le dernier grand scolastique, qui fait la métaphysique de l'être fini et la métaphysique de l'être infini. C'est comme ça qu'il divise les deux. Les métaphysiques de l'être fini, et c'est tout ce que je vois, c'est l'être contingent, c'est l'être physique, c'est l'être corruptible. Et la métaphysique de l'être infini, c'est le regard de la théologie naturelle sur Dieu. Mais c'est en conséquence directe de cela. C'est ce que Heidegger refuse complètement, parce que le concept d'être infini, je ne l'ai pas, je n'ai pas de concept de Dieu. Et comme Suarez dit que le concept d'être est infini et fini, c'est le même concept. L'être est fini et infini. Heidegger dit non, il n'y a pas de concept d'être. Ajoutons, il n'y a pas de concept d'être infini. Alors là, on est d'accord. Il faut donc tout reprendre à la racine. Ce que Heidegger annonçait, qu'il n'a pas pu faire complètement. Il a été au-delà de la scolastique. Il a voulu tout reprendre à partir de Parménide. Or, tout reprendre de Parménide que celle d'Heidegger. Parce que je crois que Heidegger projette sur Parménide sa conception de l'être. On fait toujours ça un peu en philosophie. Hein. C'est très difficile d'être d'une objectivité absolue vis-à-vis de tous ceux qui sont les ancêtres. Vous voyez, le petit-fils regarde la barbe de son grand-père dans la lumière du petit-fils. Et on comprend. Heidegger, petit-fils de Parménide, regarde la découverte de Parménide dans la lumière qu'il a de redécouvrir l'être. C'est très beau, du reste. Et si on avait du talent, on ferait le dialogue Parménide-Heidegger à la manière de Platon. Ce serait merveilleux. Alors on ferait parler Parménide devant l'interprétation de Heidegger. Mais mon petit, c'est pas ça que je voulais dire. Tu as avalé toute la philosophie hegelienne. Tu en es sorti à peu près. Mais ne m'interprète pas de cette manière-là. Parce que, en effet, c'est une interprétation de Parménide, c'est pas Parménide. Si on veut regarder Parménide pour lui-même, autant qu'on le peut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il faut tout reprendre à la racine. Ça, c'est... Vous voyez, quand les choses ont été si loin, Hegel, Nietzsche, je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Hegel, exaltation de l'esprit. Nietzsche, néantisation de l'esprit. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir ça. Alors, je comprends très bien la position de quelqu'un qui enseignait la philosophie à l'Institut catholique de Paris, qui était le père Dubarle, qui est mort maintenant, qui était dominicain, que je connaissais bien. La dernière année qu'il a enseigné à l'Institut catholique, il s'est posé la question. La philosophie européenne commence par une métaphysique, ou plus exactement, une philosophie première, et avec Descartes, philosophie de l'esprit. philosophie européenne. On peut ajouter même celle de l'Inde en m'appuyant sur Olivier Lacombe. C'est philosophie de l'être, réaliste, philosophie de l'esprit. Je ne dis pas idéaliste, mais philosophie de l'esprit. J'aime mieux prendre cette distinction que réalisme-idéalisme. Philosophie de la réalité antérieure à l'esprit. Philosophie de l'esprit qui commence par l'esprit et qui reprend tout à travers l'esprit. Vous voyez, en gros, l'objectivité de l'être, la subjectivité de l'esprit, le primat de la subjectivité de l'esprit, le primat de la subjectivité de l'être. Vous voyez, c'est le problème qu'on ne peut pas éviter. On est obligé d'être en face de ça. Alors maintenant, faites vos jeux. Hein. Alors, je crois, et du moins personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. On doit reprendre la philosophie de l'être pour assumer la philosophie de l'esprit. Dit que je ne peux pas faire une philosophie de l'esprit et redécouvrir l'objectivité, le réalisme de la philosophie de l'être. Alors il y aurait tout un petit problème très intéressant. Hein. Autrement dit, je concrétise ces deux aspects. La philosophie de l'être commence par le jugement d'existence. Ceci. La philosophie de l'esprit commence par « je suis ». Cogito ergo sum. Hein? Tout le monde connaît ça de Descartes. Hein? Cogito, je cogite, donc je suis. Donc l'être est découvert à travers la pensée. Et n'est pas découvert en premier lieu. Dans le « je suis ». Vous avez là deux points de départ. Lequel doit-on choisir? Et je dis bien, on doit choisir ceci est jugement d'existence. Ce jugement d'existence ne s'oppose pas au jugement je suis. Tandis que le je suis ne me permet pas de rejoindre le jugement d'existence. Mais je ne vais pas trop discuter cette question, mais je vous dis, c'est la question fondamentale. Elle est très très simple, comme toujours les questions fondamentales. Et elle est très intéressante. Vous allez comprendre, j'espère, parce que je crois que c'est capital de comprendre ça au plan philosophique. Si je prends comme point de départ de ma philosophie première, de ma métaphysique, hein, métaphysique ou philosophie première, c'est l'expression d'Aristote, métaphysique, c'est l'expression des bibliothécaires, hein, utilitaires. Les bibliothécaires, c'est toujours très utilitaire. Tandis qu'Aristote, c'est pas utilitaire. Philosophie première, ça veut dire la philosophie qui va jusqu'au bout et qui va le plus loin possible, en profondeur. Quand je dis que la philosophie première commence par ceci et, vous comprenez bien que tout de suite, la question fait que le ceci, c'est n'importe quoi. Ceci englobe tout. Et, grammaticalement, selon le langage, est relatif à ceci. Mais je peux aussi comprendre, puisque le ceci, c'est n'importe quoi. puisque le ceci n'est pas intéressant. La vache, le chat, c'est ce qu'on a appelé l'intuition de Raïssa, l'épouse de Maritain. Et Maritain a repris ça, puisque Maritain a dit que toutes les intuitions, il les avait de Raïssa. Il a dit ça à la mort de Raïssa. Il a cessé de faire de la philosophie. Et Raïssa a dit que c'était l'intuition de l'être. C'est pas l'intuition de l'être, mais c'est la question sur l'être. Parce que je vois, le chat existe. Raïssa dit ça. J'ai connu Raïssa. Et on a parlé là-dessus. Le chat existe. J'existe. Alors, l'être du chat et mon être, qu'est-ce qu'il y a de commun ? L'être. Donc, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, c'est commun à tout ce que je vois, tout ce que j'expérimente. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Mon intelligence peut se poser la question radicale, fondamentale, au-delà de toutes les expériences que j'ai de l'homme. J'existe. Je suis. Et si je commence par le je suis, vous comprenez que je suis coincé. Parce que le je suis seul à pouvoir le dire. Tandis que ceci est, le petit chat existe. Le petit chat ne dit jamais je suis. Quand je dis « je suis », je me distingue du petit chat. Tandis qu'au contraire, quand je regarde le petit chat et que je me regarde, je dis « il y a quelque chose de commun entre le petit chat et moi, l'exister, l'être. » Alors qu'est-ce que c'est que l'être ? Et l'intuition, c'était de voir que l'être est attribué au chat, est attribué à Raïssa, est attribué à la table. Tout ça existe. C'est le capharnaüm universel, l'être. Tout existe. Ça existe. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est ni le chat, ni Raïssa, ni l'homme, ni la table. Qu'est-ce que c'est ? Je me pose la question. Vous voyez ? L'intelligence doit être en appétit de recherche. Et c'est la grandeur de l'interrogation. L'intelligence doit être en appétit de recherche. Je suis capable, au point de vue de l'intelligence, de séparer ceci et. Et je vois que et, qu'est-ce que c'est que l'être ? À une extension que je ne peux pas limiter. Tout ce que j'ai expérimenté existe. L'être est dans la montagne, le ciel, dans le soleil, dans la lune. Est-ce que les cosmonautes ont mieux connu l'être que je ne le connais moi ? Ils ont eu une expérience de l'être nouvelle, la lune. Ils l'ont touché. Ils l'ont vu. Est-ce que ça a changé leur regard sur l'être ? Posez-vous la question. Mais non, c'était un être comme un autre. Je le vois de loin, moi, la lune. Mais c'était cette petite... c'est authentique. Hein, cette question. On parlait beaucoup des cosmonautes. Alors, quelqu'un qui habitait le Midi, parce que ça fait partie... Mais il disait pas du tout comme une Marseillaise. Pourquoi les cosmonautes ne choisissent pas la pleine lune pour aller sur la lune ? Elle est plus grosse. Ce serait plus facile de l'atteindre. Ils choisissent toujours... Question ravissante pour la fin du XXe siècle. Oui, et c'est la question sur l'être. Est-ce qu'en allant sur la Lune, je modifie mon concept d'être ? expérience d'un nouvel être. Ça, c'est sûr. La Lune, c'est pas moi. Mais la Lune existe. Et je l'ai dit avant d'être cosmonaute. Et je le dis après. Tandis que si je pars sur le « je suis », vous comprenez très bien, je m'enferme en moi-même. Donc, pour connaître l'être, il ne faut pas partir du « je suis ». Il faut partir de ce que l'intelligence atteint en premier lieu. Ceci est. Voyez, cette petite phrase d'Aristote qui est très très intéressante et dont on peut faire l'expérience quand on va à la source du Rhône et du Rhin. Il faut faire cette expérience. Aller une fois à la source du Rhône et du Rhin. Elles ne sont pas loin. Elles ne sont pas loin. Et quand vous regardez le développement du Rhin et le développement du Rhône, c'est pas tout à fait la même chose. Si je pars du je suis, ou si je pars du ceci est, le développement de la vie d'intelligence est tout autre. Aristote, Descartes. Le point de départ. Quel est le point de départ de la métaphysique? Quel est le point de départ du je suis? C'est capital, ça. Si je pars du je suis, je ne rencontrerai jamais l'être premier. Si je pars de ceci, je rencontrerai nécessairement l'être premier. Ah, ça c'est intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi, si je pars d'une métaphysique du ceci, je vais rencontrer nécessairement l'être premier? Si je suis suffisamment fidèle à ma recherche, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Hein? Et vous aboutir à ça. Si vous partez du je suis, non, non. Vous découvrirez toute la profondeur de votre personne, mais ce sera toujours le danger, la grenouille qui peut devenir aussi grosse que le bœuf. Dans le cas, le bœuf c'est l'être et la grenouille c'est le je suis.